Ah, j'aime ça. Je vois mon ami Mathias jouer du air drum sur cet excellent bed produit par Alexis, notre producteur. Merci beaucoup. 418-971-1021 pour interagir avec nous. Bruno qui demande, est-ce que OnlyFans, c'est vu comme de l'entrepreneuriat? Je ne sais pas, mon Bruno. On va regarder ça avec Pierre Graff la prochaine fois.
Si c'est le cas, peut-être que c'est uniquement ça qui explique le chiffre de 27%.
En plein ça. Les meilleurs moments de boulevard de nos émissions se retrouvent sur le blvd.fm. Et je le dirai jamais assez souvent, téléchargez notre application Boulevard 102.1 sur App Store, Google Play Store. C'est la meilleure façon de nous écouter partout où vous êtes, que ce soit au Québec, au Canada, aux États-Unis. Et également, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous avez du contenu exclusif de nos podcasts qui s'y retrouvent. Mathias, j'ai été vraiment subjugué par l'actualité ce matin lorsque j'ai appris qu'on était rendu à un taux d'absentéisme de 10% chez les infirmières du Québec. 4500 infirmières sont absentes à l'heure actuelle. C'est 8% de taux d'absentéisme en capitale nationale. Et pour faire le tour de cette problématique, on va discuter un instant même avec Julie Daigneault, vice-présidente et conseillère en santé et sécurité à la FIC. Madame Daigneault, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui avec nous.
Ça me fait plaisir, bon jeudi.
Madame Daigneault, comment on explique ceci? Est-ce qu'on est vraiment rendu au point de rupture dans notre système de santé où là, les infirmières n'en peuvent plus? Ça tombe au combat jour après jour et notre système de santé ne va que se dégrader?
En fait, il se dégrade depuis un certain temps. C'est sûr que avec la pandémie, ça a été une période beaucoup plus difficile, mais malgré tout, c'est une dégradation, bien évidemment. Autant que les professionnels en soins, les infirmières, infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes ou perfusionnistes cliniques sont dans des moments très difficiles au niveau du travail, puisqu'il y a énormément d'absences, comme vous l'avez mentionné en entrée de jeu. Ce qui fait en sorte que les employeurs ne remplacent pas la plupart du temps ces personnes absentes. Donc, on se retrouve avec une surcharge de travail régulièrement. Et vous connaissez la période dans laquelle on est de l'hiver qui revient année après année, mais malgré tout, on dirait que pour l'employeur, c'est tout le temps un renouveau, mais c'est en fait là un retour régulier à une période très difficile avec beaucoup plus d'achalandage et beaucoup plus d'absence.
Oui, bien, est-ce qu'on est en train de rentrer dans une sorte de cercle vicieux où que les conditions sont de plus en plus difficiles, donc de plus en plus de monde quitte, de plus en plus de monde sont absents, et parce que de plus en plus de monde sont absents, bien, c'est sûr que les conditions de travail sont de plus en plus dures.
Effectivement, parce que dès qu'il y a une personne absente dans une équipe, ben tout le travail est réparti avec les autres personnes qui sont présentes. Donc, vous comprendrez que, étant donné que les soins sont beaucoup plus aussi demandants pour les patients qui sont plus malades, c'est une surcharge qui est là régulièrement. Puis, quand on parle d'une personne absente, ben c'est une personne de trop, mais souvent, ça peut arriver à deux ou trois personnes absentes sur une même équipe pour un corps de travail. Donc, ça amène énormément de stress, ça amène de la surcharge. Les professionnels en soins doivent prendre des décisions vraiment difficiles à savoir quel soin va être fait et quel ne le sera pas, puisqu'elles ne peuvent pas tout faire, bien évidemment. Donc, on y va avec les urgences, ce qui amène vraiment aussi beaucoup de détresse psychologique là, chez les professionnels en soins.
Oui, justement, ma question était, est-ce que le taux d'absentéisme qui est élevé s'explique justement par des arrêts de travail pour de la santé mentale, c'est-à-dire de l'épuisement et des dépressions?
Bien, je n'ai pas les chiffres parce que on n'a pas le droit à avoir les diagnostics là, de ce qui se passe avec les professionnels en soins, mais bien évidemment, ça peut être autant des troubles musculo-squelettiques là, qui peut arriver dans des blessures au travail, mais aussi psychologiques et sans avoir des résultats ou des chiffres concrets bien établis, bien à parler avec des professionnels en soins régulièrement. Elles sont souvent sur le bord de la détresse morale qu'on appelle, surtout avec toute la charge psychologique que cela apporte avec le travail qu'ils ont à faire là aujourd'hui, avec les absences et souvent, malheureusement, l'employeur ne prend pas en compte ces absences-là pour mettre tout le monde nécessaire au travail pour avoir des bons ratios avec les professionnels en soins puis les patients. Donc, ça l'amène bien évidemment là quand même beaucoup de détresse qu'on appelle détresse morale, des risques psychosociaux, donc de la détresse psychologique. Oui.
Pour rappel, on parle avec Julie Daigneault, qui est vice-présidente et conseillère en santé et sécurité au niveau de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC. Madame Daigneault, ça serait quoi vos pistes de solution à la FIC, justement, pour venir, premièrement, stabiliser le taux d'absentéisme et par la suite venir faire des gains et venir rendre notre personnel infirmier, infirmière plus heureux au travail?
Eh bien, écoutez, il y a vraiment beaucoup de solutions à mettre en place. Puis, c'est pas la première fois qu'on en parle et c'est fait aussi là par les syndicats avec les employeurs individuellement. Mais bien évidemment, les taux d'absence qu'on appelle là des cas de blessures au travail, de la CNESST, il y a beaucoup de mécanismes de prévention à instaurer dans le réseau. Et ça, vous l'avez vu avec la loi PL101 par rapport là, aux normes là, qu'on a pour la santé et sécurité au travail. Malheureusement, le gouvernement a adapté la loi, mais avec un régime différent en santé, donc moins de prévention que dans d'autres secteurs de travail, ce qui fait en sorte que ça fragilise encore plus le réseau. Mais ça, il faudrait avoir vraiment la prévention au travail pour éviter tout type de blessure. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychologique. Il va falloir tenir compte aussi des taux d'absence qui sont réels là, sur la structure de poste, là, que les gens soient remplacés, bien évidemment, pour éviter des ruptures de soins, pour éviter le roulement de personnel des gens qui sont moins habitués, qui vont aller travailler dans un autre centre d'activité. Puis aussi d'établir vraiment des ratios sécuritaires là, professionnels en soins patients pour pouvoir donner tous les soins que la population a droit et dans la mesure de le faire, là, de chaque professionnel en soins aussi.
Vous parlez de ratios raisonnables entre patients puis personnes qui administrent des soins. Psychologiquement, c'est comme on commence à... Ça fait de plus en plus bruit dans la population. On commence à comprendre que la situation... on comprend que la situation pour les infirmières est très difficile psychologiquement. Moi, dans les articles de ce matin, ce qui m'a surpris, c'est qu'on parlait de violence des patients qui causait des blessures aux infirmières. Est-ce qu'on voit de plus en plus de patients qui sont agressifs ou qui vont même jusqu'à être violents avec les infirmières?
Ah oui, malheureusement, c'est des moments vraiment qui sont très difficiles pour différents professionnels. Les patients, oui, sont plus malades, c'est plus impatient. Il y a beaucoup de troubles aussi psychologiques qui fait en sorte qu'il y a énormément d'agressions, une augmentation des agressions. Ça peut nous faire tourner le cœur à l'envers de savoir, par exemple, qu'une infirmière s'est fait étrangler par un patient et qu'il a fallu qu'elle attende plusieurs minutes avant que la police arrive. Elle a failli en mourir. Là. C'est vraiment pas drôle. Là. Et des agressions à l'arme blanche dans les urgences, on en entend régulièrement. Énormément de violence verbale qui est malheureusement quelque chose auquel elles doivent faire face pratiquement tous les jours.
Est-ce qu'il va falloir instaurer des détecteurs de métal et également des agents de sécurité permanents à l'entrée de nos hôpitaux?
Écoutez, je crois qu'il va falloir avoir quand même que les employeurs se mettent en rôle et mettent tout le nécessaire pour que les professionnels en soins ainsi que les patients soient dans des lieux sécuritaire, autant pour faire le travail que pour avoir des soins. Donc, il faudra vraiment superviser ça et prendre les moyens qui doivent être pris, là, parce qu'on ne peut pas se rendre au travail dans un milieu qui est toujours très inquiétant. C'est quelque chose qui va être aussi dans les pistes à faire.
Julie Daigneault est vice-présidente et conseillère en santé et sécurité à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Merci beaucoup pour le temps que vous avez passé avec nous, Mme Daigneault, et on va souhaiter du mieux pour notre personnel infirmier professionnel dans les hôpitaux. Puis on lance un grand message à la population. Soyez bienveillants avec notre personnel. S'il y a du retard, s'il y a des délais d'attente, c'est pas du tout de la faute du personnel. C'est beaucoup plus de la faute de l'organisation du travail, notamment de Santé Québec.
Oui, sachez que les professionnels en soins font tout leur possible avec tout leur cœur. Minute après minute.
Je n'en doute pas du tout, Mme Daigneault. Vous êtes des véritables missionnaires. Merci beaucoup de votre présence à notre émission.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Mathias, c'est fou parce qu'on a parlé aujourd'hui d'éducation avec André Bernier, qui est justement le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Et là, on vient de parler avec Julie Daigneau au niveau des professionnels de la santé. Puis il y a un mot qui ressort, c'est la violence.
Oui. Mais on vit dans une société où que on le dit, de plus en plus de problèmes de santé mentale, conditions de vie qui sont un peu moins bonnes, beaucoup d'insécurité.
Le coût de la vie qui a augmenté. Hey, en 2028, un Québécois sur quatre va vivre de l'insécurité alimentaire.
C'est fou.
Va être obligé d'aller frapper aux portes des banques alimentaires.
On parle de 25%
dans une société qui, normalement, devrait redistribuer une richesse.
Oui, fait que ça crée du stress, ça crée une frustration chez certaines personnes. En plus de ça, on a des systèmes comme le système des soins qui fonctionnent de moins en moins bien. Par contre, faut se civiliser. Faut quand même se parler.
Oui.
C'est pas parce qu'il y a de la frustration qu'il faut devenir violent envers ces personnes-là qui sont là pour nous aider. C'est inacceptable. Je veux dire, une infirmière qui se fait étrangler, c'est pas un gardien de prison. C'est une infirmière qui vient pour travailler dans un hôpital, pour aider des gens, pas pour vivre des situations de violence comme
Exactement. J'aime ta phrase. Faut se parler, faut se calmer, les amis. Donnons-nous de la douceur et de la bienveillance en 2026. Et je le répète, si vous attendez dans un hôpital, si vous êtes à l'urgence, vous dites le délai est épouvantable, c'est pas de la faute du personnel qui sont là. Si vous les regardez travailler, c'est des véritables petites fourmis qui font tout en leur possible pour soigner tout le monde. Donc, soyez bienveillants envers ceux et celles qui vous livrent ce service.
C'est des travailleurs, puis 4500 infirmières, ça amène probablement du questionnement chez certaines personnes. Le stéréotype voudrait peut-être la nouvelle génération ont peut-être de la difficulté à travailler plus, mais il y a des témoignages qui sont sortis dans le Journal de Québec ce matin. Une infirmière d'expérience, on parle d'une infirmière qui a 20 ans de carrière dans le corps, 20 ans de carrière. Mm-hmm. Qu'elle est en arrêt maladie pour la première fois parce qu'elle disait qu'elle n'était plus capable de réfléchir, qu'elle pleurait pour rien, qu'elle avait de la misère à se concentrer au travail. Donc, les conditions sont vraiment de plus en plus difficiles.
Oui.
Et ça, c'est pour tout le monde.
Et justement, demain, 13h15, ne manquez pas ça. Jenny Boutette, une infirmière que vous entendez sur nos ondes à l'occasion, une amie du show de On en jase le midi, sera avec nous, une infirmière de plus de 20 ans, justement, d'ancienneté. Et dernièrement, elle a mis les deux genoux au sol et elle a dit « j'ai besoin de repos ». Donc, elle va venir nous livrer un excellent témoignage demain aux alentours de 13h15. Et on a un auditeur, une auditrice qui nous écrit « un cercle vicieux, le monde va manger de plus en plus mal, donc vont se blesser, tomber plus malade ». En effet, on n'est pas du tout dans la prévention présentement en santé avec tout ce qu'on voit dans notre société. On fait une courte pause à l'émission On en jase sur l'heure du midi. Et par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité pour vous avec Mathias Turcotte. Restez avec nous. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1.